Son métier, chef cuisinier. Sa passion, pèlerin à temps plein. Daniel Lafond vous invite dans son univers et celui de ses invités, chers mordus de Compostelle. Prenez place et buen camino!
Comment on fait pour lâcher prise? Mais le paradoxe, en fait, c'est qu'il n'y a rien à faire pour lâcher prise. C'est-à-dire que tant que j'essaye de faire quelque chose, je ne suis pas dans le lâcher prise, je suis toujours dans le contrôle. Le faire, c'est le contrôle. Donc, pour lâcher prise, il faut arrêter de faire. Il faut s'abandonner. Il faut s'ouvrir, il faut être dans l'accueil, il faut laisser faire.
Bonjour, bienvenue au Mordu de Santiago de Compostelle. Hypnose, coaching, bonheur, mettre en lumière ce que l'œil ne voit pas. Auteur du livre Compostelle, un chemin intérieur, marcher vers soi. Mon invité, Morgane Lemuel. Buen camino! Bonjour Morgane, comment ça va?
Bonjour Daniel, ça va très très bien, merci beaucoup.
Je suis très heureux de vous avoir Morgane parce que un de mes invités dans le podcast m'a beaucoup parlé de vous, Olivier. Il m'a dit, il faut absolument que tu ailles Morgane sur ton podcast. Ça va être très intéressant, alors je suis vraiment très content.
Merci.
Alors Morgane, toi Compostelle, comment c'est venu dans ta vie exactement?
En fait, je crois que c'était déjà là depuis très très longtemps en fait. Je crois qu'aussi loin que je me souvienne, il y avait cette idée qui était là un peu latente en moi de me dire un jour j'irai à Compostelle en partant de chez moi. Je pense qu'on se trouve tous de bonnes excuses pour se dire que ben non, cette année je peux pas. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et puis de repousser d'année en année comme ça, en se trouvant toujours quelque chose qui colle pas. Et en 2019, du coup, donc il y a eu comme un appel qui a été plus fort en fait, une sollicitation intérieure qui était vraiment très vive et qui là m'a poussé à aller au-delà de mes appréhensions à ce moment-là et de me jeter à l'eau quoi, d'une certaine façon.
Oui, et là, c'est ça, c'est que toi, en 2019, tu as décidé de partir directement de chez toi, en Bretagne, pour faire 2100 kilomètres à ton premier chemin.
Alors, oui, alors au départ, je n'imaginais pas que ça faisait 2100, en fait, ce que j'avais regardé un peu sur Internet, j'avais estimé à 1500, mais bon, finalement, je crois que c'était juste un chiffre pour moi et que ça résonnait pas vraiment comme quelque chose de concret, donc ça me faisait pas forcément peur du coup, mais... Voilà, en tout cas, oui, c'était le fait de partir de chez moi qui était important. C'était comme un symbole aussi, historique aussi, puisque au départ, les pèlerins partaient de chez eux.
Oui.
Et je trouve que dans la symbolique aussi, le fait de partir de soi pour aller jusqu'à Compostelle, je trouvais ça intéressant.
Et en plus, vous, ça fait longtemps que je vois que vous êtes sur YouTube, vous faites plusieurs cheminements personnels. C'est-tu un petit peu pour ça que vous avez décidé un peu de partir pour Compostelle, pour le développement personnel ou le spirituel, mieux vous comprendre?
Oui, c'est ça, ouais, bien sûr. Oui, tout à fait, ouais. Pour moi, bien sûr. Et puis aussi, finalement, assez rapidement, l'idée a émergé de partager mon chemin sur les réseaux. Et en fait, bon, il y a eu différentes raisons pour ça, puisque... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai pris ma décision, j'ai aussi vu toutes les peurs qui émergeaient en moi simultanément. Ben, par exemple, par rapport à mes enfants, par rapport à mon travail, par rapport à mon appartement, puisque voilà, j'avais estimé que c'était à peu près 3 mois de marche et donc je pouvais pas garder mon appartement puisque j'allais pas travailler pendant 3 mois.
Oui.
J'avais pas forcément non plus d'économie devant moi pour partir, mais en tout cas, voilà, j'avais bien compris qu'il fallait que j'y aille, quoi. Finalement, voilà, est venue l'idée derrière de partager mon aventure sur les réseaux et de créer une cagnotte en ligne pour inviter les personnes, en retour de mes partages, si elles en avaient envie, de pouvoir contribuer à mon aventure et mon voyage.
Est-ce que c'est suite à votre chemin que vous avez décidé d'écrire votre livre ou c'était déjà prévu que vous écriviez un livre?
Il y avait comme une évidence, en fait, au moment où je suis partie, voilà, où j'avais vraiment cette envie de le partager. J'ai tout le long de mon voyage, en fait, j'ai fait des partages sur Facebook, des partages écrits. Je veux pas dire tous les jours, mais régulièrement, tous les peut-être 2, 3, 4 jours, je faisais des partages écrits par rapport à ce que le chemin m'amenait à vivre. Et il y a eu un tel un tel impact, un tel retour finalement des gens qui me suivaient, que j'ai voulu, à travers ce livre, donner un peu plus de consistance au partage que j'avais pu faire, puisque dans les réseaux, ben, on sait, c'est un fil et puis ça part, ça disparaît. Mais là, du coup, de leur donner plus de vie en fait à travers ce livre, donc ça m'a permis de reprendre différents posts que j'ai pu partager le long de mon chemin et puis de rajouter aussi d'autres choses que j'avais pas forcément évoquées de jour en jour pendant ma marche.
Dans l'intro, quand je parlais des hypnose coaching bonheur, parlez-moi-en un petit peu. Vous, c'est ce que vous faites dans la vie?
Oui, aujourd'hui, c'est mon activité professionnelle. Ouais. Ouais. Donc, je suis hypnothérapeute et coach de vie. Donc, j'accompagne les gens à mettre davantage de cohérence dans leur vie pour tendre vers plus de bonheur et de simplicité. Et c'est ça aussi que je souhaitais partager dans ma marche vers Compostelle. Ce retour à soi, l'écoute de soi, d'aller au-delà de ses peurs, de pouvoir les observer déjà dans un premier temps et puis pacifier finalement toutes les différentes parts de soi. Donc dans mes partages, ce que je souhaitais, c'était utiliser comme prétexte finalement mon expérience personnelle, mais en partageant de manière universelle pour que ça puisse avoir une résonance chez chacun, qu'il soit marcheur ou pas, qu'il soit sur Compostelle ou pas, mais on est tous sur un chemin finalement, c'est le chemin de la vie, quoi.
Dans une de vos vidéos YouTube, vous parlez aussi d'une rencontre qui a changé votre vie.
Cette rencontre, oui, elle a bouleversé tous les fondements, en fait. Ça a été comme une onde de choc, un électrochoc, une onde de choc qui a bouleversé pas mal de choses dans ma vie et qui m'a amené à reconsidérer un peu même, j'ai envie de dire, la plupart de mes croyances sur le monde et l'univers, sur plein de choses, quoi. Donc, ça a été un bouleversement qui m'a amené à changer autant ma situation familiale, professionnelle et de reprendre, en quelque sorte, de reprendre la responsabilité de mon propre bonheur et d'acter des choses pour tendre vers mon propre épanouissement. Donc, de plus être finalement un peu... parfois, on peut se sentir un peu victime de la vie ou des autres ou d'un contexte, etc. Mais finalement, reprendre la responsabilité des choses tant qu'on croit que c'est l'extérieur qui détermine notre vie, ben c'est difficile de la changer. Et à partir du moment où on reprend la responsabilité de sa vie, c'est beaucoup plus facile de modifier les choses.
Puis en ayant une ouverture que plusieurs n'ont pas, est-ce que vous avez senti que les gens se confient beaucoup plus à vous, autant sur les réseaux sociaux que sur le chemin, quand vous étiez sur le chemin?
Alors sur les réseaux sociaux, oui, je pense. Dans mon activité pro aussi, bien sûr, je pense. Oui. Sur le chemin, moins, parce que comme je suis partie de chez moi, déjà au départ, j'étais sur un chemin qui n'était pas balisé, donc je voyais pas grand monde. Et après, donc j'ai récupéré la voie de Tours, qui n'est pas forcément non plus très fréquentée. Donc finalement, sur mon chemin français, j'ai marché, je crois, 43 jours. Et sur 43 jours, j'ai marché 38 jours toute seule.
Oh.
Donc voilà, il y a 5 jours où j'ai marché avec 3 personnes qui marchaient, elles, ensemble et que j'ai rencontrées sur mon chemin de Compostelle. Mais sinon, tout le reste du temps, je marchais toute seule parce que... Il y avait personne, en fait, en même temps que moi.
Surtout, c'est plus tranquille, mais rendu en Espagne, vous avez pris quel chemin, le Camino
Francés? Oui,
Francés,
oui, ou... le Camino Francés, oui. Ouais. Mais alors après, mon anglais n'est pas forcément top, donc j'avais quelques notions d'anglais qui m'ont permis quand même d'avoir quelques contacts avec certaines personnes. Peut-être pas suffisamment pour pouvoir rentrer dans des conversations plus profondes, quoi.
D'accord. Et il y a trois choses que vous avez dit sur YouTube qui m'ont vraiment... Il y a une expression en québécois qui dit titiller, là, je ne sais pas comment vous le dire.
Oui, pareil.
Alors, la première, c'est « Je n'irai pas à Compostelle avec toi ». Et là, moi, je commence à écouter. Et là, je pense que ça va être dramatique, une lettre du cœur à son copain ou quelque chose. Et là, je me rends compte que finalement, tu parles à tes souliers. À tes votes. J'aimerais ça que tu me parles de ce petit segment-là. J'ai trouvé ça tellement beau. J'ai aimé ça, la prémisse, comment tu as fait ça.
OK, ouais, merci.
Alors, ça, j'aime bien. Aussi, l'autre aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est « La nuit noire de l'âme, plus rien n'a plus aucun sens ». Ça aussi, j'aimerais ça que tu m'en parles. Et le dernier, c'est « Comment faire pour lâcher prise
». La nuit noire de l'âme, pour moi, c'était... Après cette rencontre aussi finalement qui a déclenché un éveil, une ouverture de conscience chez moi, et en fait ce qui s'est passé derrière, c'est que ça a bouleversé, comme je disais tout à l'heure, pas mal de fondements à l'intérieur de moi, et que du coup pour tendre vers plus de mieux-être, et bien d'une certaine manière, il fallait d'abord traverser sa nuit noire de l'âme pour pouvoir libérer, et guérir finalement les plus grosses blessures, en tout cas qui étaient déjà là au départ et qui pouvaient être un blocage. Donc voilà, donc c'est un cheminement personnel. Peut-être que certaines personnes qui sont amenées à marcher sur le chemin de Compostelle peuvent vivre à leur façon une certaine nuit noire de l'âme aussi, même si évidemment il n'y a pas forcément besoin de vivre une nuit noire pour partir marcher sur Compostelle. Mais je pense que le chemin peut aider à cette transmutation des blessures et à faire plus de paix à l'intérieur de soi et se retrouver soi.
Exactement, parce que plusieurs personnes à la base partent marcher Compostelle souvent pour une raison, et souvent c'est un deuil ou quoi que ce soit.
Oui, c'est ça. Quelque chose qui nous bouleverse en tout cas à un certain moment de notre vie.
Oui. Ouais. Et c'est pour ça que je trouvais ces sujets-là intéressants et que tu as inséré sur YouTube parce que, comme je disais, ben, les gens se reconnaissent là-dedans. Mmh. Puis quand on va sur Compostelle, souvent on trouve les réponses à nos questions. Oui. Et toi, c'est ce que je voulais te demander aussi, c'est que est-ce que tu as trouvé les réponses à tes questions sur Compostelle?
En fait, je me rappelle, un pèlerin m'avait posé cette question alors qu'il nous restait quelques jours avant d'arriver à Santiago. Et je lui avais dit, mais en fait, je crois que je suis partie sans vraiment de questions, quoi. est-ce que j'avais vraiment des questions quand je suis partie? En tout cas, elles n'étaient pas forcément claires, formulées, tu vois, à l'intérieur de moi. Maintenant, ce que moi j'ai trouvé sur Compostelle, je pense, c'est un silence. Un silence, mais un silence qui amène de la paix, en fait. Un silence paisible, justement, tu vois, c'est comme si toutes les questions, elles s'étaient tues, finalement. Donc, il n'y a pas besoin de réponse, puisque la réponse à tout, bah, c'est la paix du silence, quoi. C'est le silence intérieur.
Ouais.
Voilà, et je pense que c'est ça qui m'a amené Compostelle.
C'est la redécouverte un petit peu de soi-même. Oui. Mais tu parles du silence, ça aussi, tu en parles sur YouTube, et c'est un autre segment que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Le silence, est-ce qu'on est obligé de parler absolument?
Oui.
Et non, je trouve ça très beau, le silence. Moi, à Compostelle aussi, c'est ce que je dis souvent, c'est la rencontre de soi-même, oui, au-delà du chemin. Oui. Les rencontres des gens, c'est certain, mais marcher seul, ça a un bienfait là, que les gens ne peuvent pas comprendre jusqu'à temps qu'ils le vivent eux-mêmes.
Oui, pour moi, c'était important de partir toute seule. J'en avais besoin. Je sentais bien que si j'y allais avec quelqu'un, je ne vivrais pas la même expérience. J'avais besoin de le faire avec moi, ce parcours. D'être à mon rythme, d'écouter ce qui émerge de moi. Voilà, de pas être tenté de me caler sur le rythme de quelqu'un. Non, juste être à l'écoute de ce qui se vit à l'intérieur de moi.
Puis toi, avec l'expérience que tu as, justement, en coaching, puis en bien-être, tout ça, est-ce que tu trouves que les gens se cachent d'eux-mêmes?
Je crois qu'ils peuvent avoir peur d'être face à eux-mêmes. Des fois, les gens, ils évoquent un peu aussi cette sensation presque de ne pas se connaître parce que ils ont été tentés ou ils se sont sentis obligés au cours de leur vie de porter des costumes ou des masques pour satisfaire à leur entourage, et que d'une certaine manière, en réagissant comme ça, ils se sont éloignés d'eux-mêmes. Donc parfois, oui, marcher seul, être face à soi-même, ben, ça peut être effrayant. Effrayant de se redécouvrir ou de prendre conscience qu'on s'est leurré pendant si longtemps.
Oui.
Oui, ça peut être éprouvant.
Tantôt, tu parlais du silence. Quelle place dans votre vie personnelle et sur le chemin a eu la méditation?
Alors, aujourd'hui, dans ma vie, ça fait partie de mon quotidien. Voilà, c'est important pour moi d'avoir des espaces méditatifs ou des espaces de silence. C'est vraiment une ressource pour moi. Et sur le chemin, alors moi, mon regard, c'est que la méditation, elle peut être faite de différentes manières. Il y a différentes manières d'être en méditation. Ça peut être simplement en se posant dans son salon, pourquoi pas. Mais la marche, c'est aussi très méditatif, justement. Et donc sur le chemin, c'était plutôt grâce à la marche. Enfin, que j'ai pu rentrer dans cet espace méditatif. Et je pense que c'est en ça aussi que la marche permet cette guérison intérieure, comme peut le faire la méditation. C'est-à-dire quand on marche 6 heures dans sa journée, ben c'est presque comme si, alors si on le fait de manière silencieuse et en conscience, etc., c'est presque comme si on méditait pendant 6 heures de rang, quoi.
Et les hasards là-bas, est-ce que vous en avez vécu des petits miracles ou Parce que ça, c'est. Il y a trois questions que je pose toujours à mes invités et que j'aime bien parler, c'est les hasards, les miracles, les rencontres avec les gens et le retour. Mm-hmm. Et le retour, je pense que vous avez fait un segment là-dessus aussi. Oui. Mais j'aimerais vous parler du retour après. Mais les petits miracles, est-ce que vous avez vécu des petits hasards ou quelque chose qui sortait de l'ordinaire?
Tout plein,
selon
tout
vous?
Plein. Ouais, tout plein. Mais j'étais même pas partie, qu'il y en avait déjà. Je pense que d'une certaine manière, voilà, quand je dis que je me suis sentie poussée à y aller, je pense que la vie m'a montré plein de signes pour me dire que c'était maintenant qu'il fallait que j'y aille. Et pour en partager un ou quelques-uns, mais en tout cas le premier plus grand qui du coup a été pour moi l'élément déclencheur où je me suis dit bon c'est bon là il faut que tu y ailles, je le partage avec vous. C'est en fait j'étais un jour avec mes questions qui tournaient dans ma tête justement en me disant bon qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, je sais pas trop, avec toutes mes appréhensions qui émergeaient en même temps. Et donc j'étais sur mon lit en train de regarder mes mails avec mon téléphone dans les mains. Et puis tellement j'étais préoccupée par mes questions que mon téléphone finit par se mettre en veille. Et puis juste quelques secondes plus tard, il s'allume sous mes yeux pour me signifier la réception d'un SMS. Et donc j'ouvre le SMS et à ce moment-là, donc comme j'étais préoccupée par mes deux questions, j'y vais ou j'y vais pas. Au moment où j'ouvre le SMS, c'est la photo de la cathédrale de Santiago qui apparaît sous mes yeux. Voilà. Et donc, en fait, c'était une dame que j'avais accompagnée en coaching quelques mois plus tôt qui m'envoyait cette photo alors qu'elle ignorait tout de mes propres aspirations en me disant, ben voilà, suite à nos échanges, je t'envoie la photo d'un lieu qui me tenait à cœur de visiter. Donc, elle y était allée en voiture. Mais du coup, moi, je reçois cette photo au moment même où je me pose cette question de j'y vais pas. Voilà. Par exemple. Un autre, c'était à nouveau avant même mon départ. Donc, comme j'avais décidé d'y aller, donc j'ai envoyé mon préavis donc à mon propriétaire pour le logement. Et en une semaine, j'ai fait 5 visites. Et donc, un jour, il y a un monsieur qui arrive pour visiter l'appartement. Et donc, on prend donc quelques minutes pour visiter. Et puis, au bout d'un moment, il me regarde et puis il me dit « Mais vous partez, d'accord, mais vous allez où ?» Et là, je lui dis « À Compostelle. » Et là, tout d'un coup, il y a un silence qui plane. Je le vois interrogé et je lui dis mais j'y vais à pied quoi, je vais pas m'installer à Compostelle, ok, et là en fait le silence continue de planer, voilà, c'était assez étrange. Et il me regarde et il me dit mais vous savez comment je m'appelle, et je lui dis bah non je sais pas, non, et bien mon prénom c'est Santiago. Et ben c'était la première fois de ma vie que je rencontrais quelqu'un qui s'appelle Santiago, voilà. Wow. Donc ouais, j'en ai vécu plein, tu vois, et même avant mon départ en fait, et ça s'est reproduit comme ça mais plein de fois. Ouais.
Tu ris, hein, mais écoute, je veux pas te relancer, mais ce matin même, je parlais avec Olivier, mm-hmm. et on parlait de toi, justement, mm-hmm. et lui, Olivier, va avoir un enfant, et son enfant, il va l'appeler Santiago. Mm.
C'est joli, hein, c'est un joli prénom.
Ah ouais, c'est joli, c'est joli. Et les rencontres là-bas, ceux que tu as fait, ceux que tu as rencontrés en Espagne, mm-hmm. entre mm-hmm. autres, est-ce que tu as gardé contact avec eux et as-tu vécu des belles choses ou des petites anecdotes que tu peux nous raconter?
Oui, j'ai gardé contact donc, avec certains qui sont du coup un petit peu éparpillés dans le monde. Voilà, je pense à un Italien, voilà, une ouais. Colombienne qui habite à Londres, des Américaines. Et oui, je peux partager justement un bout de chemin que j'ai fait donc, avec cette Colombienne qui habite à Londres. Et donc ça, c'était après l'arrivée à Santiago, en fait. Comme je disais, moi, j'ai beaucoup marché seule et j'aime cette solitude.
Ouais.
Et en même temps, c'était chouette pendant le chemin. Même si tu marches tout seul, tu retrouves toujours plein de gens que tu croises et de jour en jour, ça devient des amis. Voilà, c'est beau. Et donc, arrivée à Santiago, en fait, j'étais un peu dans l'incertitude de me dire, bon, est-ce que je vais jusqu'à Fisterra et Mouché à pied? Est-ce que j'y vais en bus? Bon, finalement, parce que j'avais déjà 2000 km dans les jambes, j'étais un petit peu fatiguée, mais j'ai bien senti que si j'y allais en bus, j'allais le regretter, en fait. Il fallait que j'y aille, mais il fallait que j'y aille à pied, c'était une évidence, finalement, quoi. Donc, je décide d'y aller à pied, et donc, j'étais en train de préparer mes 4 jours de marche, là, avec mon petit bouquin du Miam Miam Dodo, et au moment où j'étais en train de faire ça, en fait, il y a justement cette femme qui rentre dans l'auberge où j'étais, Donc elle logeait ailleurs et en fait elle était venue dans cette auberge-là parce qu'elle avait prévu justement de continuer sa route jusqu'à Fistera et Mouchia, mais elle voulait utiliser le service de portage de bagages. Et donc dans mon auberge il y avait ce service qui était proposé, donc elle venait pour déposer son sac et là elle me voit, on se retrouve là alors qu'on s'était déjà dit au revoir, on était arrivé à Santiago, on s'était déjà dit au revoir. Et là elle me repose la question, elle me dit donc tu vas à Fistera? Et je lui dis oui, finalement je vais y aller à pied. Elle me dit ah bah moi aussi, donc si tu veux on peut faire la route ensemble. Je dis ok, d'accord. Donc le lendemain matin, elle revient me chercher à l'auberge. Et on commence notre route pour aller donc jusque Fistera. Et donc là, comme on marchait toutes les deux, donc comme je disais, mon anglais était un peu hésitant, mais comme on est que toutes les deux, donc je fais des efforts pour parler un peu plus anglais avec elle et on échange quelques mots. Et là, en fait, à un moment donné, elle me dit que quelques jours avant le départ, elle avait les cheveux longs et elle s'est coupée les cheveux quelques jours avant le départ pour Compostelle. Et là, je la regarde et je me mets à rigoler. Et je dis, ah, c'est drôle, moi aussi. Donc, elle sort une photo de son téléphone, je sors une photo de mon téléphone et on rigole toutes les deux de cette coïncidence. Et puis, on reprend notre marche, quoi. Et puis, le deuxième jour, donc on était toutes les deux en train de papoter toujours. Et là, elle me dit, tu sais pas, c'est étrange, en fait, je m'étais pas rendu compte, mais ma carte de crédit était arrivée à expiration fin septembre. Et du coup, elle était embêtée parce qu'elle pouvait plus retirer d'argent, quoi. Et là, je l'écoute, je la regarde et je me mets à rigoler. Et je lui dis, mais moi aussi. Donc, c'était rigolo. Donc, elle sort sa carte de crédit, moi aussi, et on regarde. Enfin, voilà, c'était étrange. Et on continue notre chemin. Hasards. Ouais, mais beaucoup de petits hasards. Ouais. Et on continue notre chemin. Et le jour d'après, donc, on papote toutes les deux à nouveau. Et là, elle me pose une question parce qu'elle savait que j'avais fêté mon anniversaire sur le Camino, mais elle ne connaissait pas la date de mon anniversaire. Et donc, elle me demande. Et là, je vois arriver le truc, gros comme une maison, quoi. Je m'arrête de marcher, je la regarde en rigolant. Et donc, je lui donne ma date de naissance. Et là, elle me regarde, tout en rigolant aussi. Et en fait, on est né le même jour. On est né le même jour. Donc, elle sort sa carte d'identité, je sors la mienne. Et donc, le même jour, à 10 ans pile d'écart, quoi. Voilà.
Ah, waouh.
C'était waouh, comme tu dis. C'était juste incroyable. C'était très, très beau. Et on a passé 4 jours ensemble, les 4 derniers jours, jusque Fistera et Mouchia. Et c'était vraiment formidable. Une belle rencontre.
Est-ce que tu as gardé contact avec cette
personne?
Oui,
c'est chouette.
Et là, tu me parles justement de Fistera. Oui. C'est un endroit magnifique. Mm-hmm. Mais quand tu es arrivé à Santiago de Compostelle, puis tu as pris la décision de marcher jusqu'à Fistera, mm-hmm. Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Est-ce que la motivation était encore là?
Oui.
Parce que moi, si je peux te parler de mon expérience, c'est que quand on arrive à Compostelle, on est tellement content de voir Compostelle, puis on a marché tellement longtemps, que ce que je conseille, c'est de marcher tout de suite en direction Fistera, parce que si on arrête un petit peu, j'ai toujours peur que la motivation tombe. Et c'est un segment qui dure entre 3 et 4 jours, qui est quand même pas tellement facile, parce qu'il y a quand même
un peu de relief,
plusieurs petites montagnes. Exactement. Et toi, est-ce que tu as trouvé difficile cette partie-là pour aller jusqu'à Fistera?
Non, j'ai pas trouvé ça difficile. J'ai trouvé ça sympathique, du coup, parce que je marchais donc avec cette amie. Et puis, je pense que pour moi, c'était aussi challengeant et un aboutissement, finalement, d'aller jusqu'au bout de la Terre, quoi. J'allais jusqu'à l'océan. Moi qui suis partie de Bretagne, tu vois, j'étais partie quelque part, voilà, de l'océan aussi, même si j'étais pas au bout de la Terre, hein, sur la pointe Bretagne, mais quand même. Et donc, de faire tout ce chemin-là à pied pour aller jusque Fistera en Espagne, et ouais, c'était chouette. Mais j'étais encore plus marquée, je pense, par Mouchia que par Fistera.
Mais aussi à Fistera, est-ce que tu as brûlé tes vêtements, non?
Non, mais je me suis débarrassée de mes chaussures.
Oui, okay, ouais,
en fait, en fait, j'ai dû acheter une deuxième paire de chaussures sur le chemin, en fait. Ma première était usée.
Ah oui, hein.
Donc, du coup, je me suis débarrassée de ma vieille paire de chaussures. Même si je les avais déjà changées, tu vois, je les ai emmenées jusqu'au bout du chemin quand même avec moi. Je les portais dans mon sac, mes chaussures usées, et donc je m'en suis séparée à Fistera.
Mais je vais continuer pour le retour, surtout que toi, tu es parti quand même 3 mois. Et là, tu as vécu les valeurs un peu espagnoles, les valeurs un peu du chemin. Quand tu es revenu, ça n'a pas dû être facile pour toi, d'après moi, là.
Bah, je pense que plus on part longtemps et plus le retour demande un temps de réadaptation, quoi. Et puis j'étais partie, donc ça faisait 2 mois, 3 semaines, toute seule. Donc oui, ça demande un temps pour être à nouveau entouré. Pendant presque 3 mois, tu marches. Enfin, moi, je me rappelle même simplement le retour en taxi. Du coup, on avait fait le retour en taxi depuis Mouchia jusqu'à Santiago. Mais c'était compliqué, quoi. La vitesse de la voiture, après avoir marché pendant presque 3 mois. Ouais, donc on se dit comment va être le retour à la vie normale, entre guillemets, parce que je sais pas vraiment ce qu'est la normalité, mais ouais, reprendre un travail, reprendre sa voiture, tout ça, ça paraît presque étrange, ouais.
Mais quand tu es revenu chez toi, oui. Est-ce que là, tu t'es trouvé tout de suite un logement ou parce que tantôt tu disais que tu quittais ton logement?
Ouais. Alors déjà, ça a été important pour moi de prendre le temps de revenir. C'est-à-dire que quand je suis revenue à Santiago, j'ai à nouveau passé une journée tranquille où je me suis posée, etc. Ensuite, j'ai choisi, parce que j'avais rien préparé du tout, hein, rien du tout. Donc j'ai choisi le bus pour rentrer parce que justement, ça allait prendre un peu de temps. Donc j'ai mis 30 heures ouais. de bus, je crois, pour refaire tout le trajet jusque chez moi. Je me suis arrêtée d'abord chez une copine avant de faire un petit break avant de finir mon trajet retour. Et comme j'avais plus d'appartement, en effet, donc j'étais hébergée dans de la famille. Et puis, assez vite, en fait, a émergé d'autres idées de voyage. Donc, j'ai pas forcément cherché à reprendre un appartement tout de suite parce qu'il y avait d'autres idées qui émergeaient en moi. Et donc, par exemple, j'avais prévu donc en 2020 de faire un tour d'Europe à vélo pour aller jusqu'en Grèce et à Delphes. Donc, il y avait la maxime « Connais-toi toi-même » qui était inscrite sur le fronton donc, du temple d'Apollon. Et donc, du coup, j'avais pas forcément envie de reprendre un appartement avec toutes les contraintes que ça impose.
Et là, tu es resté là ou c'était quoi la suite?
Alors, j'avais prévu donc ce voyage en Europe. Bon, j'ai pas pu le faire à cause des conditions sanitaires qui ont eu lieu ensuite.
Oui, à cause de la COVID.
Voilà. Donc,
ouais.
J'ai laissé émerger d'autres plans, un plan B, un plan okay. C. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai fait un tour de Bretagne à vélo donc, okay. en 2020. Ça, j'ai quand même fait presque 2000 km aussi. J'imaginais pas faire 2000 km à vélo à travers la Bretagne. Donc, en allant voir les sites mégalithiques, énergétiques et plein de choses. Pour partager, à nouveau, je partageais sur les réseaux. Donc, de la même façon, il y aura sans doute un livre qui viendra derrière par rapport à ça. Et puis ensuite, j'ai refait donc un autre voyage, à nouveau en marchant. Parce que j'aime la lenteur de la marche quand même, qui est pas la même à vélo. Donc, j'aime cette lenteur de la marche. Et donc, je suis partie... D'abord sur la voie de Rocamadour, oui. Puis ensuite j'ai fait le sentier Qatar, donc dans le sud de la France. J'ai longé la Méditerranée et mon point d'arrivée c'était donc une ville d'Ardèche qui s'appelle Joyeuse. Et donc à nouveau mon envie c'était de partager sur les réseaux, tu vois qu'on disait par rapport aussi à mon activité professionnelle de coaching, etc. Voilà, de partager ou de développement personnel, et de partager autour du thème de la joie, enfin ce qui l'empêche. Qu'est-ce que ça pourrait changer dans notre vie si on lui faisait plus de place? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui faire plus de place? Voilà, donc pour moi, le voyage est un prétexte au partage et de pouvoir se retrouver soi et de tendre vers plus d'épanouissement dans son quotidien.
Mmh. Mmh. Mais là, tu m'ouvres une porte parce que tu me dis que tu avais fait 2000 km en vélo, mais est-ce que ça t'a tenté d'aller faire Compostelle en vélo?
Alors non. Non, ça ne me tente pas. Je me dis que peut-être un jour, je referai Compostelle, mais si je le refais, je choisirai un autre chemin. Voilà. Je me dis que je n'ai pas forcément envie de refaire la même chose, okay, ou en tout okay. cas, peut-être de le refaire, mais différemment. Peut-être dans l'autre sens. Ouais. Je ne sais pas. Pourquoi pas.
Dans l'autre sens, c'est beaucoup plus difficile, par exemple. Ça, je te dis parce que j'ai rencontré un pèlerin qui le faisait de l'autre sens. Il m'avait dit que c'est sûr que quand tu marches dans les heures de pointe, là, où il y a plusieurs pèlerins, ça peut aller parce qu'on peut se fier un peu à eux. Mais quand il n'y a pas personne, c'est très difficile
pour
de
le balisage,
se retrouver.
Ouais, ouais. Ouais, j'imagine.
Ouais, pour le balisage, ouais. Ouais, exactement. Ouais. Mais aussi, dans ton cas, vu que tu as fait le Camino Francés, il y a plusieurs autres chemins à Compostelle, dont le Camino du Nord et le Puy en Vallée en France aussi, qui peut être intéressant aussi pour toi. Et là, j'aimerais aussi parler de ton livre, Un chemin intérieur, marcher vers soi. J'aimerais ça que tu m'en parles.
Oui, alors bon, il est sorti il y a un mois que je l'ai en main, hein, donc... C'est moi-même qui l'ai fait imprimer et donc qui l'ai édité et qui le distribue. Et donc, comme je te disais un peu tout à l'heure, en fait, pour moi, c'est une manière aussi de donner un peu plus de consistance aux écrits que j'ai réalisés donc pendant ma marche vers Compostelle, et puis d'y rajouter aussi bien sûr des choses nouvelles. Et donc à travers ça, l'idée c'est vraiment de partager oui ce chemin intérieur, c'est comme ça que je l'ai appelé. C'est les prises de conscience que le chemin permet, c'est les métaphores perpétuelles que le chemin met devant nous, en fait, parce qu'on pourrait regarder les ouais. choses au premier degré, mais il y a tellement de choses au second degré qui nous permettent de transmuter des choses à l'intérieur de nous, de manière très très simple, hein. C'est le poids du sac à dos, par exemple, évidemment, chaque pèlerin en parle hein, souvent à son retour, mais voilà, ton sac à dos, en général, quand t'arrives à Santiago, il est beaucoup plus léger que quand t'es parti le premier jour, quoi. Donc, la symbolique, elle est très belle déjà là, quoi, de voir qu'on a allégé notre sac à dos. Mais c'est de voir un peu ces différentes métaphores, les différentes prises de conscience, et de les partager avec le lecteur, quoi. Et que celui qui l'a fait, j'imagine, enfin, en tout cas, j'espère, va s'y retrouver. Et de voir aussi que celui qui l'envisage, ou peut-être il trouvera aussi une source de motivation pour aller au-delà de ses propres limites, de ses propres appréhensions, voilà, de ses propres blocages aujourd'hui, et qu'il puisse oser vivre l'aventure et l'expérience de Compostelle lui aussi.
Oui, exactement. Toi, Morgane, suite à ton chemin de Compostelle, est-ce que tu t'es donné une nouvelle mission ou après ma barre, tu voulais aller là-bas pour te réaligner. Oui. Est-ce que ça a marché? Et est-ce que tu t'es donné une nouvelle mission?
Ben oui, je crois. C'était pas comme je te dis, j'avais pas forcément de questions, mais je crois que les réponses, elles sont arrivées quand même. Et du coup, ça a donné du sens à mon voyage, le fait que j'ai choisi de le partager et de l'écrire aussi sous forme de livre. Et puis que je te dis, ensuite, j'ai fait donc ce tour de Bretagne à vélo, pareil, qui m'a amené aussi d'autres prises de conscience, que ce soit en lien avec du développement personnel ou de la spiritualité, et l'envie de le partager à nouveau sur les réseaux, puis maintenant, je travaille sur la nouvelle publication d'un deuxième ouvrage autour de ça. Ensuite, voilà, sur cette marche de Joyeuse que j'ai faite aussi, il y aura forcément un livre aussi qui viendra autour de ça, voilà, je me laisse le temps, mais oui, d'une certaine manière, ma nouvelle mission, peut-être c'est la même, hein, mais c'est d'amener les gens à aller au-delà de ce qu'ils pensent être des limites, et donc
ouais.
de voir ces voyages que moi j'ai envie de réaliser comme des prétextes au partage pour amener chacun à vivre justement de manière plus alignée et authentique avec qui il est. Ouais.
Toi, est-ce que tu considères que ce voyage-là peut avoir amélioré même ton coaching de vie que tu veux faire à tes clients?
Ah ben oui, j'en suis convaincue. Ouais.
Oui,
ouais,
hein?
J'en suis convaincue. On parlait du silence, tu vois, qui a été vraiment quelque ouais. chose que j'ai ressenti. Je pense que de manière naturelle, je suis plutôt à l'aise avec le silence. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Mais à travers ce silence, c'est comme une... Oui, tu parlais d'alignement, il y a de ça... Il y a plus d'alignement, c'est plus posé à l'intérieur de moi, et donc c'est aussi beaucoup plus facile d'accueillir ce qui peut se passer chez l'autre, en fait. En plus de calme.
Et la spiritualité sur le chemin, et dans ton livre, est-ce que tu en parles?
J'en parle. Je dis pas forcément que c'est de la spiritualité, parce que pour moi, c'est devenu quelque chose qui fait partie de mon quotidien et qui est naturel. Donc... je le mets pas forcément en avant, mais ça fait partie de moi, quoi.
Ouais.
Donc, pour moi, la spiritualité sur le chemin, c'est simplement, par exemple, quand tu marches, justement, t'es là, tu marches tout seul. Alors, comme j'ai pu le faire à plein d'endroits en France, par exemple, mais voilà, et t'es là, t'es au milieu de la forêt, et il y a personne, et tu marches, et en même temps, t'as l'impression simplement de faire partie du tout, quoi. Tu fais partie de la nature, t'es en communion avec l'arbre, avec le ciel, avec la terre. Pour moi, ça, c'est déjà de la spiritualité. Voilà, c'est prendre conscience de quelque chose de plus grand que nous, de prendre conscience de notre rôle dans ce tout. Je pense que la spiritualité et le chemin permet ça.
La spiritualité, si on n'en a pas, je trouve qu'on s'en découvre
ouais,
un petit peu là-bas.
Oui, je pense qu'il y a ça,
oui. Ouais. Même les églises, là, dans ta vie de tous les jours, tu regardais les églises, mais... Moi, personnellement, dans ma vie de tous les jours avant Compostelle, moi, il y a un avant et un après. Là. Mais avant Compostelle, quand je passais devant une église, je la regardais. Mais maintenant, quand je passe devant une église, c'est différent. Je la vois différemment. Il y en a tellement des églises en Espagne, des belles églises et des cathédrales incroyables. que ça ne peut pas rester... On ne devient pas insensible vis-à-vis les églises. Ouais. Et...
Alors moi, les églises, elles m'interpellent, pas d'un côté religieux, tu vois, mais d'un côté énergétique. C'est l'énergie que je ressens dans l'église qui m'interpelle. Et c'est vrai que sur mon chemin de Compostelle, que ce soit dans des cathédrales ou dans des toutes petites chapelles sur le chemin, quoi, quand tu rentres dedans, mais souvent, je me suis mise à pleurer de manière complètement inexpliquée. Et tu sens en fait qu'il y a un truc qui se passe à travers toi parce que tu es à cet endroit précisément, quoi. C'est comme si le lieu participait à ta guérison intérieure de par l'énergie qui l'habite.
Ah, je suis tellement d'accord avec
toi. Donc c'est en ça, je pense que ce chemin de Compostelle, il est libérateur. Il y a une énergie qui se dégage du chemin et qui participe, presque j'ai envie de dire, qui participe au réalignement de nos cellules intérieures, quoi.
Ouais. Puis toi, sur le chemin, t'as-tu beaucoup pleuré?
Ouais.
C'est une question un peu personnelle.
Mais je ne sais pas si on peut dire beaucoup, mais j'ai pleuré, Et en même temps, j'ai accueilli les larmes avec douceur parce que je sais que les larmes, elles sont la matérialisation d'une libération qui s'opère à l'intérieur de moi, tu vois. Pour moi, quand les larmes, elles se manifestent, c'est que je suis en train de lâcher une résistance à l'intérieur de moi ou de guérir une blessure à l'intérieur de moi. Donc si je m'autorise à pleurer, c'est que je m'autorise à guérir en fait. Donc oui, ça m'est arrivé de pleurer en marchant, ou comme je te dis, tu vois, aussi de me sentir submergée par une émotion vive en arrivant dans un lieu, que ce soit une église ou autre chose d'ailleurs. Ça peut être une fontaine ou simplement d'être en contemplation devant la beauté de la nature en haut d'une colline, au milieu de la forêt ou n'importe, mais c'est tellement beau, une forêt d'eucalyptus ou n'importe, mais waouh, c'est,
oui.
Ouais, c'est beau quoi.
Ben, justement, en parlant de beauté, là, c'est quoi tes coups de cœur du chemin?
En beauté, moi j'ai ressenti un truc tout à fait particulier à un moment donné en plein milieu de la forêt des Landes. Parce que dans la forêt des Landes, donc moi je suis passée par là, mais c'est des kilomètres tout droit, tu vois. Donc tu vois à l'horizon 10 kilomètres devant toi, quoi. Donc c'est un peu éprouvant aussi, mais moi j'ai adoré ça. D'autres m'avaient dit, tu verras les Landes, c'est difficile, c'est long, ça paraît interminable. Moi j'ai adoré ça parce que d'une certaine façon, je savais que c'était tout droit et que j'avais pas forcément besoin de mettre mon attention sur le balisage. Donc je savais que je pouvais partir dans mes pensées autant que je voulais et c'était ok, quoi. Mais à un moment donné, en fait, j'étais en plein milieu de la forêt. J'avais des herbes hautes partout, tout autour de moi, des herbes qui faisaient 1,50 m de haut, quoi. Donc on voyait presque plus le balisage, mais je savais qu'il était là. Et là, à un moment donné, mais je m'arrête et j'entends la nature partout, tout autour, les oiseaux. Je vois la forêt, etc. Et je me dis, waouh, regarde, t'es là, ici, là, Morgane, en plein milieu des Landes, en plein milieu de la forêt. T'es parti de chez toi, t'as fait 800 bornes, tu vas à Compostelle, il y a encore 1000 bornes devant toi, moi je savais pas trop, et t'as plus d'appart, j'avais vendu mes affaires pour financer mon voyage, j'avais plus rien en fait d'un point de vue matériel, voilà, j'avais presque plus rien. Donc toutes tes affaires, elles tiennent là dans un sac à dos, tout ce dont t'as besoin, ça tient là, t'as besoin de rien d'autre pour vivre, et regarde comme c'est beau, et waouh. Et là ouais, c'était transcendant là, c'était un truc, mais... finalement, il n'y a besoin de pas grand-chose, quoi.
Et en Espagne, y a-tu des endroits qui t'ont plus marqué?
Oui, alors j'ai adoré la Meseta, pour les mêmes raisons, oui. D'une certaine manière. Tu vois, cette grande ligne droite et un peu désertique. J'ai adoré ça. Et puis après, il y a bien sûr aussi ce moment à la Croix de Fer, hein, qui est aussi très émouvant. Donc moi, j'y étais au petit matin, il faisait encore nuit, et j'ai vécu le lever du jour à la Croix de Fer avec d'autres pèlerins qui étaient là, et chacun avec son petit caillou et ce moment de recueillement, et tu ressentais bien l'émotion de tout le monde qui était là, qui se mêlait les unes aux autres, et c'était beau, c'était très très beau. Ouais. Juste après la Croix de Fer, en reprenant la route, en fait, comme je te dis, on était au soleil levant, et il y avait les nuages qui étaient en contrebas dans la vallée, donc on marchait au-dessus des nuages.
À Osobero.
Ouais, c'est ça. Et c'était vraiment très, très beau. Et il y avait même un moment, d'ailleurs, c'est la photo que j'ai mise sur la couverture de mon livre, mais les nuages dessinaient un cœur dans la vallée, juste en dessous de nous. C'était très joli. Ouais.
Moi, la Meseta, j'ai vécu un peu ce que tu as vécu en France. Mm-hmm. J'ai eu un moment de solitude et c'est sûr qu'à un moment donné, il m'est arrivé une petite aventure là, que j'ai déjà racontée ou qui me manquait d'eau là, à un moment donné, mais j'ai vécu une belle solitude sur la Meseta et je trouve ça tellement important, cette place-là. Il y a des gens qui font pas la Meseta, je comprends pas exactement pourquoi, mais c'est tellement gratifiant quand tu fais ce passage-là. Je trouve que t'es en mode mental. Dans cet endroit-là, là, je parle souvent des épreuves un peu physiques au début là, de ton chemin quand on commence à Saint-Jean-Pied-de-Port, par exemple. Et là, tu tombes un peu dans le mode un peu physique là, pour les 10-12 premières étapes. Mm-hmm. Et après ça, on tombe dans un mode mental. Et quand on arrive dans la Meseta, je trouve que ça frappe encore plus. Mm-hmm. Je trouve qu'on peut vraiment réfléchir. Tu as des longues...
Ah ben là, oui.
Des longues... Ouais. Sans voir d'arbres nécessairement, il y a moins de pèlerins dans ce coin-là aussi. Je trouve que ça fait du bien pour l'âme.
Absolument. Absolument. Ouais. C'est un espace de calme intérieur, de vide, de pèlerin aussi, comme tu dis. Et ça permet de toucher autre chose à l'intérieur de nous. Ouais.
Quand tu es arrivé à Compostelle, quand tu as vu la pancarte, là, Santiago de Compostelle, est-ce que tu as eu un. Une émotion un peu plus grande. Est-ce que tu pensais la voir prochainement? et quand tu l'as vue, est-ce que tu as eu une grande émotion?
Alors oui, j'ai eu une grande émotion. En même temps, on revient dans la ville, tout ça. On marche longtemps dans la ville. Ça fait un peu étrange après avoir marché tout ce temps aussi. J'étais prise par l'émotion et j'ai remarqué même, j'étais surprise de voir à quel point l'émotion était vive. Et pour autant, j'arrivais pas à pleurer là où avant, comme je disais tout à l'heure, j'avais pourtant... pleurer à d'autres reprises, mais là, bizarrement, j'arrivais pas à pleurer, même si l'émotion était très forte. Je sais pas, il devait y avoir trop de choses qui se mélangeaient en même temps, de se dire l'accomplissement, en même temps le début d'autre chose, et que c'est pas tout à fait fini si on veut aller à Fisterra et Mouchia, enfin, voilà, il y a plein de choses, les amis qu'on va quitter, enfin, les autres qu'on va retrouver, enfin, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais après, sur le panneau d'entrée d'agglomération de la ville, alors, je pense qu'il doit être changé régulièrement, hein, parce que je vois de temps en temps des vidéos d'autres pèlerins et il y a des petits mots parfois hein, qui sont écrits sur le panneau. Et en fait, moi, quand je suis arrivée là, j'ai pris un selfie en fait avec le panneau.
Ouais.
Et dessus, sur ce panneau, c'est écrit Ama la Vita. Au moment où moi où j'y suis, et je prends cette photo, c'est écrit Ama la Vita. Et là, je me dis waouh. Mais en fait, j'ai fait deux chemins et ma destination, c'était quoi? Est-ce que ma destination, c'était Santiago ou est-ce que finalement ma destination, c'était Ama la Vita, quoi. Ma destination, c'était Aime la vie, quoi. Et je suis arrivée à mon point de destination. Aime la vie, Santiago, et il y a plein de choses à la fois, et c'est chouette.
Moi, je trouve que, rendu à Compostelle, il y a ce panneau-là, et il y a la cathédrale de Compostelle, mais pour moi, j'ai vécu ça dans deux différentes façons. Quand j'ai vu le panneau en tant que tel, là, je m'ai mis à pleurer. Okay. J'étais tellement fier de moi. J'étais finalement arrivé. Et là, après ça, on fait un autre 4-5 km dans la ville, un peu comme à Burgos. Ouais. On marche un peu dans la ville. Et là, moi, je me rappelle que j'essuyais mes larmes. J'ai essuyé mes larmes pendant 4-5 km, certains. Et quand je suis arrivé devant la cathédrale, c'est complètement un autre sentiment. Là, j'avais un sentiment de fierté. Mm. J'étais arrivé au point culminant du voyage. Ouais. Et là, j'étais fier. Je ne pleurais plus. J'étais juste fier d'être là, de voir les gens s'étendre à terre.
Ouais, c'est ça.
Et une autre chose qui m'a beaucoup marqué, moi, quand on rentre dans Compostelle, justement, juste avant d'arriver à la cathédrale, et ça aussi, j'en parle quand même assez souvent, c'est, je ne sais pas si tu l'as vécu, toi, mais c'est les violonistes.
Ah oui.
Des gens qui jouent du violon. Ouais. Pour t'accueillir. Ouais. Et moi, j'ai vécu un grand moment à cet endroit-là. C'est tellement... C'est beau, c'est triste. Oui. C'est difficilement explicable. Ouais. Mais quand on arrive là-bas, on a nos émotions à fleur de peau et on dirait qu'ils jouent pour nous.
Oui, ouais, ça m'a fait ça aussi. Ouais, ouais. Et en même temps que je t'entends raconter ton arrivée à Santiago, ça me donne des frissons à nouveau parce que je me replonge dans tous les souvenirs et tous les partages. En effet, je revois les gens harassés, allongés par terre, sur le sol pavé, face à la cathédrale. Et,
les gens sont fatigués, ils arrivent.
Ils sont fatigués, mais heureux, tu vois. Ils pleurent, en même temps, ils sont tristes, en même temps, ils sont joyeux. C'est, C'est tellement plein de choses à la fois. Puis on s'en fiche, que tu sois venu à pied, à vélo, en voiture, en train, enfin peu importe, en fait, il y a quelque chose qui se dégage de tout ça qui est juste grandiose, quoi.
Et toi, tu l'as fait au mois de juillet jusqu'au mois d'octobre, ouais. Mais moi, quand je suis arrivé là-bas, il y avait le 25 juillet, okay. C'est la fête des pèlerins, et il y avait du monde, c'était, je ne sais pas comment t'expliquer ça, on marche sur les chemins, on a peut-être une vingtaine, une trentaine de personnes, et on arrive là-bas, il y a à peu près 50 000 personnes. Ouais. On se demande dans quel albergué qu'ils ont couché, mais oui. C'est tellement une grande fête, c'est tellement impressionnant. Les gens voyagent de partout dans le monde pour arriver là le 25 juillet mm-hmm. pour assister à cette fête-là qui est grandiose. Il y a des feux d'artifice, il y a des spectacles. Il y a des spectacles même qui m'ont surpris, là, des spectacles de musique rock, pour ne pas dire heavy metal, juste à côté de la cathédrale. Vraiment, juste à côté de la cathédrale. Et, c'était vraiment là, impressionnant. Là, il y a de tout. Là. Moi, je trouve que l'arrivée à Compostelle, c'est significatif pour tout la marche et les émotions qu'on vit là, à travers ce chemin-là. Oui.
Moi, je dirais qu'elle s'est passée en deux temps, cette arrivée. Donc, bien sûr, il y a l'arrivée toute seule et en même temps avec les gens que j'ai rencontrés sur mon chemin. Voilà. Et puis le soir, on retrouve les gens qu'on a croisés au fur et à mesure de notre parcours. On est content de les embrasser, de leur souhaiter un bon retour chez eux, etc. Mais ce qui s'est passé, en fait, pour moi, pour nous, c'est que il y avait, tu sais, au fil des jours, tu retrouves souvent les mêmes personnes, quoi. Et puis du coup, il y avait quelqu'un qui avait lancé comme ça une invitation un peu à la volée en disant « bah tiens, si vous en avez envie, on se donne rendez-vous samedi à 17h devant la cathédrale ». Et du coup, on devait être une cinquantaine quoi à peu près à 17h le samedi devant la cathédrale. Et on a fait une photo de groupe et c'était super beau. Et en même temps, tu vois, je voyais tous ces gens et moi, ça faisait plus de 2 mois et demi que je marchais toute seule quasiment. Mais en même temps, tous ces gens, je les connaissais, quoi. Tous ces gens, je les avais croisés à un moment donné. Voilà, avec certains, j'avais fêté mon anniversaire. Enfin, il y avait plein de choses, quoi. Et il y a quelque chose de tout à fait particulier en termes de liens qui se créent dans les rencontres, en fait, sur le Camino. Et même si on se voit quelques minutes, quoi. C'est quelques minutes un jour, et puis on va se recroiser quelques minutes le lendemain ou une semaine plus tard. Mais il y a toujours quelque chose de fort qui se met en place.
C'est tellement fort, les conversations. Ouais. Je sais pas si t'es embarqué là-bas, là. Des fois, tu te parles juste une journée avec quelqu'un, mais on dirait qu'on a l'impression de connaître la personne depuis des années.
C'est ça, ouais.
Je trouve que c'est vrai, ouais. Là. Il n'y a pas de fake, là. On va directement au point, on se parle, oui. On s'écoute. Je pense que le fait de vraiment s'écouter sur le chemin fait en sorte que tu marches avec quelqu'un, comme je disais, puis tu as l'impression vraiment de le connaître plus que certains amis que tu connais depuis des années,
ouais.
Là.
Et moi, il y avait même certains où on parlait pas du tout la même langue, en fait. Hein. Je me rappelle d'une femme, alors elle m'avait dit qu'elle avait 66 ans, elle ne parlait que hongrois. Donc, tu vois, donc, mais on s'était croisés. On a marché presque tout le chemin espagnol ensemble. Enfin, on se retrouvait tous les soirs dans les mêmes auberges, en fait. C'est ça qui est rigolo. On se concertait jamais. Et presque tous les soirs, on se retrouvait au même endroit, quoi. Donc, même avec les gens avec qui il est moins facile de communiquer parce qu'il peut y avoir la barrière de la langue parfois. Il y a quand même un truc, c'est un sourire, c'est un signe de la main, c'est un geste à force de se croiser, de se recroiser, de se recroiser à nouveau.
On se comprend en plus.
Oui, c'est ça,
On dirait que tu reconnais un autre pèlerin qui est allé à Compostelle.
Ouais, c'est vrai.
On dirait qu'on a un langage mutuel.
Ah, puis de toute façon, après, aussitôt, quand tu reviens et que tu croises quelqu'un qui l'a fait, mais voilà, c'est un peu comme on est en train de parler là, quoi. Je veux dire, tu pourrais parler pendant des heures du sujet, quoi.
Et toi, t'as-tu, justement, tu me parles de ça, mais t'as-tu eu de la difficulté quand tu es revenu et t'as voulu raconter un peu tes histoires là-bas avec tes gens que tu connais dans ta vie normale? Est-ce que t'as eu de la difficulté à en jaser un peu? Est-ce que les gens étaient réceptifs ou à un certain moment donné, les gens t'écoutent?
Ben, j'ai envie de dire que ça dépend des gens. Ouais, c'est ça, c'est que ça dépend des gens. Alors moi, j'en ai parlé un petit peu parce que comme j'avais partagé donc mon voyage sur les réseaux, finalement, que ce soit par les vidéos sur YouTube ou par les posts sur Facebook, donc j'avais quand même pas mal de gens qui m'ont suivi, qui m'ont encouragé régulièrement, qui mettaient des commentaires sur mes posts, etc., qui ont contribué donc financièrement aussi, comme je disais, tu vois, à mon voyage. Donc en retour, j'ai fait quelques conférences quand je suis revenue chez moi, Et du coup, c'était aussi l'occasion de rencontrer ces gens qui m'avaient suivi pendant tout ce temps, quoi. Et de partager avec eux mon voyage à l'oral, cette fois-ci, plutôt qu'à l'écrit jusque-là. Et donc, bah oui, eux étaient très contents, mais parce qu'ils étaient demandeurs aussi. Après, c'est sûr que quand on est, nous, dans notre envie de partager le chemin à quelqu'un qui ne connaît pas ou limite, ça ne l'intéresse pas plus que ça, peut-être qu'à un moment donné, notre enthousiasme va le fatiguer. Oui, c'est possible. Mais si tu parles avec quelqu'un qui connaît et qui a envie ou qui rêve de le faire, mais en général, tu pourrais en parler pendant très, très longtemps, quoi.
Et toi, là, ça fait un an et demi là, que t'es sorti du chemin. C'est quoi tu considères qui a le plus changé en toi depuis que tu as fait le chemin?
Ouais, je dirais que c'est ce silence dont je te parlais tout à l'heure. En fait, il y a moins d'agitation. Ouais, il y a moins d'agitation à l'intérieur de moi. Donc, je suis beaucoup plus posée. Il m'est encore plus facile de prendre du recul par rapport à certaines expériences de vie. Tu vois, quand les choses se produisent et que peut-être dans un temps passé, ça aurait créé justement de l'agitation ou des résistances à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'accueillir simplement ce qui est là. Donc, c'est plus facile, quoi.
Et la patience.
Ouais, ouais,
aussi,
bien sûr, ouais. Ouais. La patience, ouais. Ouais. Dans la vie de manière globale, ouais, générale, dans tous les aspects, ouais.
De mériter ce qu'on veut acheter, finalement, et ouais.
Je dirais aussi que, du coup, c'est se rendre compte que, avec cette patience, en allant à ton rythme, tu peux réaliser de grandes choses aussi, tu vois. Donc, c'est gagner en confiance aussi par rapport à soi et de se dire qu'en fait, si je peux faire de grandes choses. J'en suis capable.
Ouais. Et toi, est-ce que tu as remarqué tantôt, tu me parlais de ton sac à dos et que tu avais tout vendu tes choses et que la plupart des choses étaient dans ton sac à dos. Est-ce que tu as remarqué qu'on a juste besoin de ça pour vivre?
Ouais, clairement. Ouais. J'irais même au-delà parce que cette amie avec qui j'ai marché donc les derniers jours, donc entre Santiago et Fistera puis Mouchia, en fait, elle a partagé avec moi que quand elle est arrivée en France, donc elle est arrivée, je sais plus, à Biarritz ou Bayonne, je sais plus, enfin à l'aéroport en fait, son sac à dos, son bagage était perdu. Donc quand elle est arrivée à l'aéroport, elle avait pas ses affaires. En fait, son sac était allé à une mauvaise destination. Et donc elle s'est dit, bah qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là et j'attends quelques jours que mon bagage revienne à moi? Ou est-ce que, comme j'ai prévu, je vais jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port et je commence mon chemin sans mes affaires? Et donc, en fait, c'est ce qu'elle a fait. Donc, elle avait rien. Elle avait juste sa petite pochette de sac à main avec ses papiers, un peu d'argent. Et elle a commencé son chemin comme ça, avec quelques affaires que d'autres pèlerins lui ont données, qu'elle a glissées dans ses poches. Et elle a marché comme ça pendant 8 jours, je crois, presque une semaine. Ou, tu vois, moi, je te parlais de mon sac à dos, mais elle avait rien du tout, quoi. Non. Et même avec rien, bah, tu continues d'être, tu vois.
Ouais.
Donc, et j'ai trouvé ça très beau aussi comme expérience quand elle me l'a partagé. On croit qu'on a besoin d'affaires pour vivre ou d'objets ou de matériel, mais en fait non, on n'en a pas besoin.
Et même en plus, je pense que ça c'est tous les pèlerins qui doivent avoir déjà vécu ça, mais plus le chemin avance et plus ils laissent des choses dans les herbiers et plus on marche, plus on veut être léger et plus on se garde le minimum.
Moi, je suis partie, quand je suis partie, j'étais en autonomie, donc j'avais ma toile de tente, j'avais mon réchaud, ma popote, enfin tout ça. Je suis partie, j'avais 14 kilos. Et je suis arrivée à Compostelle, alors je me suis séparée de ma tente après Bordeaux, enfin sur mon chemin. Je suis arrivée à Compostelle, j'avais, je pense, 6 kilos et demi dans mon sac. Voilà. Et à nouveau, tu vois, la symbolique, je la trouve jolie, tu vois. Bah oui, on s'allège. Ouais.
Ouais.
En fait, on porte nos peurs dans notre sac à dos. Hein. C'est important de le voir.
Ouais.
Et donc, plus on avance et plus on se déleste de nos peurs, quoi. C'est parce que le pull qu'on a pris en plus, c'est parce qu'on avait peur d'avoir froid, quoi. La toile de tente, c'est parce qu'on avait peur de ne pas savoir où passer la nuit. Les 2 litres d'eau, c'est parce qu'on avait peur d'avoir soif ou de ne pas trouver à boire sur le chemin. Mais tout ça, finalement, tout ce qu'on met dans notre sac, c'est la représentation de nos peurs. En fait, on n'en a pas besoin.
Mais toi, en France, est-ce que tu couchais dans une tente ou tu couchais dans les albergués?
Alors, la première moitié de mon chemin en France, j'ai beaucoup dormi dans la tente, parfois dans des campings, parfois en bivouac, en nature. Et puis, parfois aussi, j'ai dormi chez des gens que j'ai rencontrés sur mon chemin. Simplement, je leur expliquais que j'étais pèlerine en route vers Compostelle et que je cherchais un endroit où passer la nuit. Et donc, j'ai fait de très, très belles rencontres comme ça, de personnes qui m'ont hébergé pour une nuit chez eux. Ouais, et puis après, à peu près, oui, j'ai à peu près la moitié de mon chemin français après, donc j'ai utilisé les auberges. Quand les auberges étaient disponibles, après j'ai utilisé les auberges, parce que comme je marchais déjà toute la journée toute seule, je me disais qu'en utilisant les auberges, c'était aussi une manière de rencontrer des gens. Voilà. Mais finalement, même dans les auberges en France, ben, la plupart du temps, j'étais toute seule, en fait. Ouais, j'avais l'auberge pour moi toute seule. Mais bon, j'avais un peu plus de confort
Ah
quand
oui.
même que l'étoile de tendre.
Mais c'est sûr que toi, tu l'as marché, je sais pas si je pourrais dire hors saison, mais jusqu'au mois d'octobre, il y a beaucoup moins de pèlerins là, en France.
Ouais. Moi, j'ai beaucoup utilisé les auberges municipales parce que je voulais pas
Oui.
réserver. Donc,
OK.
du coup, j'ai utilisé les auberges municipales parce que je savais qu'en général, elles prenaient pas de réservation. Et
Non, il y avait plus de monde un petit
ouais,
peu.
voilà, il y a plus de monde, elles sont plus grandes, ça fait un peu étrange parfois, mais je crois que j'avais aussi envie de vivre ça, toi, les grands halls, grands espaces avec plein de lits. Voilà, il y avait des rencontres aussi intéressantes dans ce contexte-là. Non, mais j'ai aimé aussi.
Ouais,
C'est voilà.
ouais,
Je savais que je le vivrais pas trop ailleurs.
ouais. En terminant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, dans les prochains jours avec la COVID, là, c'est sûr que ça retarde beaucoup les choses, là, mais qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Ça serait quoi, idéalement pour toi, là, quelque chose de bien qui pourrait t'arriver?
Bah écoute, moi j'ai prévu d'autres marches. Hein, donc là, au mois de mai, je vais repartir au moins longtemps, hein, mais je vais repartir donc
Ouais.
avec une amie là cette fois-ci, mais sur le chemin de Stevenson.
Ouais.
Voilà, que je connais pas du tout. Donc comme on est un peu cantonné dans nos frontières, bah on en profite aussi pour voir toutes les belles choses qui sont à l'intérieur de notre beau pays. Voilà. Et puis après, ben bah, après c'est quand même que justement, c'est si on regarde un peu plus loin, que la circulation justement hors frontières soit plus facile pour pouvoir continuer à vivre de beaux voyages et les partager.
Parce que là, en ce moment, vous ne pouvez pas rentrer en Espagne, je pense, hein?
Non, c'est compliqué, ouais.
Mais tu parles du chemin de Stevenson. Tu écouteras un de mes podcasts avec
D'accord.
Mandy et Serge qui en parlent du chemin de
D'accord.
Stevenson. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et pour ton livre, comment que les gens peuvent se le procurer?
Alors, c'est exclusivement sur mon site internet. Donc,
Parfait.
c'est morganlemoel.com. Et donc, il y a une petite rubrique avec la boutique. Et donc, on commande en ligne. Et moi, je reçois votre commande et
OK.
je vous ferai un grand plaisir de vous envoyer le livre.
Wow.
Voilà.
Moi, j'ai bien hâte de lire ton expérience sur Compostelle. Venant d'une coach de vie, je trouve que ça doit être assez. Je trouve que ça a deux perspectives un petit peu. J'ai bien hâte de
Bah,
lire ton
j'espère
livre.
que ça pourra apporter un regard un peu différent, voilà.
Oui, exact, exact. Mais merci beaucoup hein, pour cette belle entretien.
Merci,
Puis
Daniel.
je te souhaite que du meilleur pour toi et un bon chemin, Stevenson, pour toi.
Merci, merci beaucoup, Daniel.
Et buon cammino.
Merci, ultra. Ciao.
Son métier, chef cuisinier. Sa passion, pèlerin à temps plein. Daniel Lafond vous invite dans son univers et celui de ses invités, chers mordus de Compostelle. Prenez place et buen camino!